Ben, j'ai reçu ton ordinateur.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio, La puce à l'oreille. Ici, on décrypte l'informatique et ses concepts nébuleux pour les rendre simples, concrets, pratiques, accessibles. Sur un ton ludique, on explore les différentes possibilités offertes par le numérique et surtout on les dépasse pour imaginer un horizon virtuel plus désirable. Au commencement du monde était le Verbe, nous dit la Bible. Et si, au commencement du monde virtuel, était le code ? En informatique, ni code secret, ni langage crypté, mais un langage d'initié, avec ses règles, sa syntaxe, et ses codes bien particuliers justement. Les JavaScript, Python, C++, répondent tous à des normes qui leur sont propres. Est-ce que la comparaison avec les langages humains se tient ? Quelles sont les spécificités de ces langages qui parlent aux machines ? À l'heure où les frontières du monde virtuel et du monde réel deviennent de plus en plus poreuses, on se questionne sur les langages de programmation dans ce nouvel épisode de La puce à l'oreille. Pour tenter d'y voir un peu plus clair, nous avons eu le plaisir de recevoir Gilles Dovec, informaticien logicien, philosophe français, ancien élève de l'École polytechnique et chercheur à l'INRIA. Et oui, tout ça. Allez, plongez avec nous dans la matrice et bonne écoute. En 2016, Google Brain, le programme de recherche en intelligence artificielle de l'entreprise éponyme, livrait au grand public une anecdote assez curieuse. Au cours des expérimentations, deux ordinateurs sont parvenus à communiquer entre eux de façon quasi autonome et surtout dans un langage créé de toutes pièces, indéchiffrable par les chercheurs. Cette nouvelle, qu'elle nous semble enthousiasmante ou inquiétante, permet en tout cas de révéler l'importance fondamentale des langages de programmation en information. Mais c'est quoi en fait un langage de programmation, Gilles Dovec ?
Les ordinateurs sont des machines à exécuter des algorithmes. Et qu'est-ce qu'un algorithme ? Eh bien, c'est simplement une recette qui permet de résoudre un problème. Un certain nombre d'algorithmes, manipulent des symboles. Donc manipule par exemple des lettres ou manipule des chiffres. Alors un algorithme simple que nous avons tous appris à l'école primaire, c'est celui qui consiste à chercher un mot dans un dictionnaire. Donc plutôt que de chercher d'ouvrir le dictionnaire à la première page et puis de vérifier tous les mots de la page, puis la deuxième page, etc. Il y a un algorithme plus rapide qui consiste à ouvrir le dictionnaire au milieu et puis à se poser la question de savoir si le mot est avant ou après le mot médian du dictionnaire et puis à répéter cette opération. Quand on fait ça avec un dictionnaire de 60 000 mots, si on devait utiliser le premier algorithme, celui qui consiste à ouvrir le dictionnaire à la première page, puis à la deuxième, etc., il faudrait faire 60 000 comparaisons. En revanche, avec l'algorithme qui s'appelle la recherche par dichotomie, donc qui consiste à couper le dictionnaire en deux, on s'en tire avec 16 comparaisons au maximum. Les ordinateurs, ce sont des machines à exécuter des algorithmes, mais il n'y a pas un ordinateur par algorithme. Donc on pourrait imaginer qu'il y a un ordinateur qui fait des additions, un ordinateur qui fait des multiplications, un ordinateur qui fait des recherches dans un dictionnaire. Mais en fait, c'est pas ça. Un ordinateur, c'est une seule machine qui est capable d'exécuter tous ces algorithmes. Nous voyons cette polyvalence, cette universalité des ordinateurs quand nous pensons au nombre d'objets que les ordinateurs ont remplacés. Les ordinateurs ont remplacé les machines à écrire, mais ils ont aussi remplacé les tourne-disques ou les gramophones, mais ils ont aussi remplacé les annuaires, mais ils ont aussi remplacé les téléphones, mais voilà. Donc, cette universalité, cette polyvalence des ordinateurs, on la voit ici.
Nous avions déjà abordé cette notion dans le premier épisode de La puce à l'oreille intitulé L'ordinateur, qui n'est, vous vous en souvenez peut-être, rien de plus qu'un exécutant. Du coup, le rôle des informaticiens consiste à décrire le plus clairement possible une suite d'opérations destinées à guider l'ordinateur dans l'accomplissement de sa mission. Le développeur, à l'aide des langages de programmation, rédige un programme. C'est ce qu'on appelle aussi parfois un logiciel.
L'usage du verbe coder est là un petit peu pour nous rappeler que quand on exprime un programme, on l'exprime dans un langage qui est extrêmement codifié. C'est-à-dire, je pense que tous ceux qui ont déjà écrit une ligne de code dans leur vie s'en sont rendus compte. Il suffit d'oublier un point virgule ou d'ouvrir une parenthèse et pas la fermer, etc., pour que le programme ne marche pas du tout. Et donc, quand les ordinateurs sont apparus, du simple fait de leur polyvalence, il est devenu nécessaire de trouver des moyens de leur communiquer des algorithmes, des moyens d'exprimer des algorithmes. Et pour ça, on a inventé des langages qui s'appellent les langages de programmation.
Alors si à l'oral, une petite faute de grammaire ou une imprécision de vocabulaire n'empêche pas notre interlocuteur de nous comprendre, en informatique, pas de quartier. Une parenthèse manquante, un oubli de point-virgule, et c'est tout le programme qui est rendu caduc. Alors même si l'usage du mot « coder » peut susciter la rêverie, la programmation est plutôt une affaire de logique, de rigueur et de vigilance. Si l'on s'amusait à compter les langues qui peuplent notre monde et les langages de programmation disponibles sur Terre, on se rendrait compte que ces chiffres sont assez proches l'un de l'autre. Autrement dit, il y a presque comme autant de langues parlées sur Terre que de langages informatiques. Mais quelle différence entre le code et la langue telle que nous la pratiquons aujourd'hui, Gilles Dovec ?
On s'aperçoit que une grande différence entre les langues et les langages, on dit souvent que c'est que les langages il y a des variables, les langues il n'y en a pas, il n'y a pas de variables dans les langues naturelles. Mais disons cette, on voit ici qu'il y a une filiation entre les langages de la logique et les langages de l'informatique.
Et oui, le solfège est une langue à part entière. Et si vous voulez l'avis de la puce à l'oreille, les mélomanes doivent une fière chandelle à cette invention du XIIIe siècle. Imaginez seulement, nous pourrions décrire la mélodie du boléro de Ravel avec des mots. Oh, quelle poisse! D'abord, il faudrait un do, oui, mais quel do! Et puis, quelle longueur cette première note, quel rythme! La traduction formalisée permet plus de rapidité, de fluidité et de précision. Qui plus est, elle est quasiment universelle. Une invention décidément bien pratique. Mais alors, comment les langages de programmation sont-ils nés? Ils ne se sont pas formés de manière spontanée ou par agrégation comme la plupart des langues parlées par les humains. Au contraire, les langages de programmation naissent d'une nécessité, d'un besoin et à l'appui d'une volonté. Et dans cette affaire, la logique n'y est pas pour rien, comme nous le rappelle Gilles Dovec.
La logique, c'est toujours intéressé, alors c'est pas son seul intérêt, mais il y a toujours dans la logique une réflexion sur la construction de langage. Donc pas l'utilisation de langue, de la langue naturelle pour raisonner, mais la création de langages artificiels qui permettent de mieux raisonner, de mieux exprimer les raisonnements logiques. Ce qu'on retrouve même dans les mots logique et logiciel, qui viennent tous les deux du grec logos, il y a dans ces mots l'idée que la logique, comme le logiciel, ont en commun cet intérêt pour les langages. Et donc, quand on a créé les premiers langages de programmation, donc au début des années 50, eh bien, un des points de référence essentiels, c'était les langages de la logique. Il faut se mettre à la place des pionniers de l'informatique. Dans les années 50, ils étaient assez démunis pour créer des langages. Ils n'avaient pas tellement de modèles sur lesquels s'appuyer. Puis ils avaient une pression assez forte parce que il y avait beaucoup de gens qui voulaient écrire des programmes. Donc il fallait vite produire des langages. Et donc ils se sont beaucoup inspirés des langages de la logique.
Et même si les premiers langages sont tous issus de la logique et façonnés par elle, cette situation n'est pas vouée à l'éternité. En effet, il existe d'autres façons de concevoir la programmation. Gilles Dovec nous le disait en début d'épisode. À chaque langage, sa spécificité. Et même les langages ayant fait leurs preuves ont leurs limites. Prenez un robot par exemple. En tant qu'informaticienne, j'aurais envie de lui dire quoi faire, comment se comporter, quelle action enclencher. Eh bien, la plupart des langages traditionnels issus de la logique ne le permettent pas. Ces derniers peuvent effectivement décrire un état, la porte est ouverte par exemple, mais pas une action. Il ouvre la porte. Vous voyez la différence ? Avec l'évolution de la technique, les langages évoluent et les pratiques aussi. Un peu comme dans la vraie vie, en fait.
Dans les langages de programmation, un certain nombre de gens, pensez par exemple à la programmation d'un robot, ce que vous allez vouloir exprimer, c'est pas tellement des états du robot, c'est beaucoup plus des actions du robot. Vous voulez que le robot marche, avance, recule, tourne, prenne un objet sur la table, repose l'objet sur la table, etc. Et donc il y a toute une tendance dans la théorie des langages de programmation qui consiste à dire que les langages issus de la logique mettent trop en avant les états et pas assez les actions, et que les langages de programmation doivent au contraire se focaliser sur les actions.
Cet épisode nous rappelle que loin de l'automatisation à grande échelle, l'informatique est avant tout une histoire d'hommes et de femmes passionnés qui s'investissent pour écrire le monde numérique. Et si commencer un nouveau chapitre de l'informatique vous tente, n'ayez crainte de la page blanche. Le monde de demain s'écrit dès aujourd'hui et il est important d'en faire partie.
Donc vous voyez qu'il y a un petit peu, comme dans les langues, même s'il ne faut pas forcer le trait, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, les langages et les langues, c'est des choses assez différentes. Il y a un certain nombre de pétition de principe, de vision du monde, de philosophies différentes qui mènent à des langages eux aussi différents.
Enfin, nous, on vous dit ça, on vous dit rien. On vous met juste la puce à l'oreille. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le code, la puce à l'oreille vous recommande « Ce dont on ne peut pas parler, il faut l'écrire, langue et langage » de Gilles Dovec, justement, un essai fondateur sur les langages, ses différentes façons d'appréhender le monde, un ouvrage qui est à destination des littéraires comme des scientifiques. Et parce que la meilleure façon de comprendre ce qu'est le code, c'est d'en écrire un peu, pourquoi pas tenter l'expérience vous-même ? Par exemple, sur le site de la Khan Academy, vous pouvez suivre gratuitement un premier cours débutant. Je suis Sophie Comte, cofondatrice de Chute Magazine et de Chute Radio, et je suis ravie d'avoir prêté ma voix à ce nouveau format. Ce podcast a été écrit par la journaliste Nolwenn Mogwen. Nous remercions également notre sponsor, l'assureur AXA. Pour écouter les prochains épisodes, tapez la puce à l'oreille dans votre plateforme d'écoute et même Chute Radio pour découvrir toutes nos émissions. À bientôt !